Chapitre 6. On quitte Rome pour Naples, Naples pour Assise. On ne descend presque partout que dans des hôtels princiers. Retour par Florence, Pise, Gênes. Que de surprises, que de splendeurs. Thérèse admire éperdument. Mais devant les plus beaux spectacles, elle n'aspire qu'à se priver de l'enchantement de ses yeux. Elle souffre, mais n'abdique pas. Son entêtement est sublime. Elle garde la volonté, c'est-à-dire la certitude d'entrer au couvent à Noël. Pour gagner du temps ou pour la distraire, son père lui propose un pèlerinage au lieu saint. Ce ne serait qu'un pis-aller. Elle veut passer sans délai la porte qui conduit à la Jérusalem céleste. En débarquant à Lisieux sur le conseil de sœur Agnès, Pauline, elle rédige une belle lettre pour Monseigneur. Elle a toujours contre elle Monsieur le supérieur du Carmel, mais pour elle, la mère prieure. Bien mieux, au cours du voyage de Rome, elle finit par conquérir le grand vicaire de Bayeux. Il appuiera de toutes ses forces sa supplique. Décidément, elle a Dieu dans son jeu, c'est fait. Elle ne doute de rien, elle attend la réponse. Mais Dieu semble hésiter. Dieu s'ingénie à la faire languir. Dieu estime qu'il conviendrait de rabattre tant d'assurance. Noël approche et la réponse ne vient pas. Il faut qu'elle s'y résigne, hélas. Thérèse entendra, comme chaque année, la messe de minuit à la cathédrale Saint-Pierre. On imagine sa tristesse, peut-être sa mauvaise humeur, et les tendres reproches qu'elle adresse à l'enfant Jésus. Ce n'est que le 28 décembre, en la fête des Saints Innocents, que la mère Marie de Gonzague lui communique la décision de l'évêché. Monseigneur s'est rendu. Il s'en remet entièrement à l'agrément de la mère prieure. Celle-ci n'a qu'à faire un signe et Thérèse entrera demain au Carmel. Eh bien non, elle a réfléchi. Elle redoute pour la jeune fille le surcroît d'austérité qui marque le temps du carême. Tant pis si elle la déçoit. Oui, pour être franche, tant mieux. Ce ne sera pas trop de 3 mois pour s'exercer à la vertu de patience. Thérèse ne sera donc agréée qu'en avril, le jour où le couvent fête l'Annonciation. Dieu a son plan, mais le démon aussi. Il compte user de ce délai pour dissiper la jeune fille. Qu'est-ce que c'est que 3 mois à présent? Elle dépose de toute sa vie pour se mortifier au cloître. Qu'elle profite des joies du monde, qu'elle engrange à la hâte quelques bons souvenirs de plus. Le démon sous-estime la force d'âme de Thérèse et surtout la grâce qui la soutient. Non, la fiancée de Jésus ne perdra pas une minute pour se préparer à faire antichambre dans la cellule austère qui précède la salle des noces. Il ne convient pas qu'elle y entre parée de joie et de regrets humains, mais de pénitence et de mérite. Jour après jour, heure après heure, elle occupera ses dernières vacances à briser en petits morceaux ce que Dieu aura pu lui laisser de volonté. Elle contrariera ses moindres abandons, ses moindres velléités de caprice. Elle détournera ses regards quand ils se poseront sur des objets qui lui sont chers. Elle s'interdira toute discussion, toute parole de réplique. Elle sautera sur toute occasion de rendre de menus services en se gardant de les faire valoir. Elle obéira dans l'instant au désir à peine exprimé de ses proches. En un mot, elle sera le modèle de la servante dans la maison des Buissonnet. Le 8 avril 1888, au soir, la famille était rassemblée dans la salle à manger que nous connaissons. Les flambeaux de cristal éclairaient la table. Le repas était abondant et fin, comme il convient un jour de grande fête. Chez un bourgeois à son aise, fut-il un saint. Mais on mangeait du bout des lèvres. On célébrait le départ de Thérèse pour le Carmel. Monsieur Martin donnait sa fille de tout cœur. Thérèse touchait au moment le plus doux de son existence. La fibre humaine, mise à nu cependant, vibrait et souffrait. Il eût été monstrueux de ne pas souffrir. Dieu n'exigeait pas tant. Il permettait à la nature de reprendre ses droits avant de déposer tous ses pouvoirs. Le lendemain matin, Thérèse accorda un dernier sourire aux arbres du jardin et aux meubles de la maison, descendit le sentier rocailleux des buissonnets, salua les vieilles pierres de l'église Saint-Jacques et par la rue de Livaro, étroite et pauvre, qui franchit l'orbiquet sur un petit pont, précéda ses parents dans la chapelle monastique. Elle assista avec eux à la messe. Au moment de la communion, elle n'entendit autour d'elle que des sanglots. Elle seule ne pleurait pas. Mais son cœur battait à mourir quand elle s'avança vers la porte de la clôture. Elle embrassa tous les siens, se mit à genoux pour recevoir la bénédiction de son père et partit sans se retourner. La porte s'étant refermée sur elle, elle tomba dans les bras de la mère prieure, de ses deux sœurs par la nature et par la règle, de ses nouvelles compagnes. Le terrible supérieur, monsieur de la Troète, était présent. Sans craindre de rompre l'enchantement, il s'écria d'une voix sèche de façon à être entendu de monsieur Martin « Eh bien, mes révérendes mères, vous pouvez chanter un tédéum. Comme délégué de Monseigneur l'évêque, je vous présente cet enfant de 15 ans dont vous avez voulu l'entrée. Je souhaite qu'elle ne trompe pas vos espérances, mais je vous rappelle que s'il en est autrement, vous en porterez seule la responsabilité. » Ce digne prêtre manquait de tact autant que de clairvoyance. L'enfant de 15 ans gagna sa cellule d'un pas tranquille et résolu. Une sorte de majesté s'alliait à sa modestie et toutes ses sœurs, devant elle, furent comme saisies de respect. Le long d'un ruisseau noir, un jardin exigu pris entre de hautes murailles à l'abri des regards, un cloître autour. Sous un toit d'ardoise à lucarne, un bâtiment de briques sombres, percé d'arcades en berceaux, d'une glaciale nudité. Moins de feuillage encore qu'au pensionnat de l'abbaye. Au centre du cloître, une énorme croix. À l'intérieur du bâtiment, des couloirs blancs et rectilignes, des cellules froides sans ornement, et en lettres noires au-dessus des portes, le rappel de nos fins dernières. Veillez et priez, souffrir et mourir. Au fond du réfectoire, sur la table de la prieure, une tête de mort dont les orbites caves regardent les religieuses manger. Enfin, au cœur de la communauté, entre les croisillons trop serrés de la double grille, la vue trop lointaine du tabernacle et rarement l'ombre et la voix des parents au parloir. Tel est le paradis que vient de choisir sœur Thérèse. Tout dans le monastère me parut ravissant, dit-elle. La petite cellule, de 3 mètres sur 3, avec son carré de fenêtre, sa paillasse sur des tréteaux, sa terrine et sa cruche, son banc, sa table et sa croix de bois nue, réalisait à la perfection l'image du désert qui était l'objet de ses rêves. Elle se répétait sans cesse. Maintenant, je suis ici pour toujours. Avec Dieu, à l'écart du monde, de ses prestiges tentateurs, de ses faiblesses, de ses mesquineries, dans la société des parfaits. Elle guérira de cette illusion. Un couvent, c'est encore le monde. Partout sont des hommes, c'est le monde. Dieu en a décidé ainsi. Le costume d'une postulante n'est pas flatteur. Il n'a ni la noblesse de l'habit des mères et des novices, ni le pittoresque familier de celui des converses. Une robe noire, étriquée, et un bonnet noir. C'est qu'il ne s'agit pas de la séduire, plutôt de l'éprouver, de la décourager, si peu que sa vocation soit entachée de romanesque. Elle s'insère, en parente pauvre, dans une famille peu nombreuse, on n'est presque jamais plus de 20 au Carmel, dont chaque membre a sa fonction fixée et dirigée par la prieure. Celle-ci applique la règle sous l'inspiration de Dieu. Plus une parole libre, plus un geste libre, plus un instant de libre, la seule liberté est d'obéir. De 5h du matin à 10h30 du soir, le temps est partagé entre la psalmodie au cœur, tout l'office du bréviaire, la messe, l'explication de la règle, l'étude du latin et des livres sacrés, la lecture en commun, le travail manuel, le déjeuner et la collation, la méditation et la prière intime. Tout cela se fait en silence, c'est-à-dire sans une seule phrase, sans un seul mot qui ne réponde pas à une question ou qui ne justifie pas le service. 2 fois par jour, 2 heures sur 17, une récréation permettra tout juste de se détendre. Encore la mère prieure ou la maîtresse des novices, sa déléguée auprès des jeunes sœurs, veillera-t-elle à modérer l'abandon et l'expansion, à gouverner les humeurs et les caractères, pour le seul bien des âmes qu'elle a charge d'élever à Dieu. Elle sera une mère dans toute la force du terme, dosant l'affection et la rigueur. Mais comme elle a aussi son humeur et son caractère, Dieu n'en délivre que les très grands saints, elle restera sujette à l'erreur et à l'imprudence, peut-être même à l'injustice. Elle est femme, ses filles aussi. De sorte qu'au couvent se posera comme partout le problème épineux et humainement insoluble de la vie en famille, de la vie en société. Recouvert par la discipline, atténué par l'obligation de la charité fraternelle, mais renforcé, souvent exaspéré par la clôture, les incompatibilités naturelles, les incompréhensions, les conflits subsisteront à l'état latent ou larvaire. Mais Dieu s'en servira pour l'avancement des meilleurs. Ces dames de la ville commentent l'événement. Cette petite Martin s'enterrait ainsi à son âge. Elle n'y restera pas, bien sûr, j'en répondrai. Oh, pensez-vous une entêtée comme elle? Elle est beaucoup trop orgueilleuse pour avouer jamais qu'elle s'est trompée sur sa vocation. Elle souffrira, mais elle restera. C'est par orgueil qu'elles y restent toutes. Ce n'est pas par plaisir. Madame Y, qui est renseignée, intervient. Chacun prend son plaisir où il le trouve. Ne croyez pas qu'on s'ennuie au Carmel. D'abord, on n'a aucun souci, puisque tout est réglé d'avance. Tu redeviens enfant. On se laisse conduire. Il ne faut presque rien pour vous amuser. Alors, on ne prie pas toujours? Mais non. Entre les offices, on cause, on s'amuse. Les jeunes filles de famille cultivent des arts d'agrément. On fait de l'aquarelle, on compose des vers. Les jours de grandes fêtes, on joue même la comédie. La comédie? Je vous assure, c'est ma petite cousine Solange qui me l'a dit. Ces bonnes religieuses avaient besoin d'une poupée. Elles ont pris Thérèse. Elles feront joujou avec elle. N'oubliez pas d'ailleurs qu'elle retrouve ses deux aînés et vous pensez bien si elles la gâteront. Ces dames rassurées recoulent. Si elles n'avaient pas tant d'obligations mondaines, elles iraient de ce pas rejoindre Thérèse Martin. La réalité est fort différente. Non sous le rapport des plaisirs. Il est bien vrai qu'on se divertit comme on peut, avec un naïf enjouement au cours des récréations et des fêtes. Le Carmel n'est pas inhumain. Mais si tant est qu'une des bonnes religieuses eût songé à traiter comme une poupée la postulante de 15 ans, la gravité et la maturité lisibles sur son beau visage eussent au fait de l'en dissuader. Thérèse, du moins, aurait pu compter sur une certaine tendresse de la part de la mère prieure qui l'avait si affectueusement secourue dans les épreuves de sa vocation. Mais le temps des épreuves n'était pas fini et ce qu'avait souffert Thérèse ne pouvait être qu'un commencement dans la carrière où elle s'engageait. En passant la porte de la clôture, elle perdait les privilèges dont elle jouissait de l'autre côté de la grille. La mère prieure le lui fit bien voir. Mère Marie de Gonzague, qui gouvernait la communauté depuis 2 ans, elle en avait alors 54, était une femme distinguée, de bonne noblesse provinciale et de ce fait un peu distante, mais douée de cœur et de charme. D'un caractère actif, entreprenant un peu brouillon, traversé parfois de mélancolie et sans beaucoup d'esprit de suite, nous dit-on, elle avait des sautes d'humeur, elle changeait souvent d'idée, comme une personne sûre d'elle-même, elle exigeait qu'on la suivît partout. On ne peut supposer que sa sympathie pour Thérèse fut tout d'un coup tombée dès son arrivée au couvent. Il semble plus probable qu'elle se tînt ce raisonnement. Voici une petite fille qui ne s'est jamais sortie de sa famille. La dernière, la plus choyée. Elle a bien tourné, c'est un fait, mais dans un milieu de très braves gens où la vie était facile, où tout répondait à ses vœux et souvent à ses fantaisies. Elle s'est crue favorisée non seulement de grâces intimes, mais même d'une apparition. Elle a beaucoup de volonté, elle ne sera donc pas commode. Elle a placé son orgueil, son ambition dans la possession de Dieu, mais cela prouve qu'elle en a encore. Malgré son désir de perfection, elle s'imagine que tout va plier devant elle, que ça ira tout seul parce qu'elle a 2 sœurs ici. Nous saurons lui prouver que non. C'est d'ailleurs le meilleur service à lui rendre. Si bien que la pauvre Thérèse, au lieu du visage tout en sourire, tout maternel qu'elle attendait, rencontra le masque impassible et sévère d'une supérieure. Il n'est pas non plus impossible que la gaucherie de la postulante dans les travaux serviles l'agaça et que sa docilité excessive à réparer la moindre faute exaspéra la mère au lieu de l'apaiser. C'était, je le répète, une autoritaire à caprice, très sainte femme par ailleurs. L'épreuve nouvelle commença par la froideur. Elle se poursuivit par les reproches. Thérèse, pourtant très discrète sur le sujet des persécutions réelles ou imaginaires qu'elle eut à subir au couvent, elle laisse entendre quelque part que celles qu'elle avoue sont loin d'être les plus cruelles, nous rapporte timidement que chaque fois qu'elle rencontrait la bonne mère, celle-ci ne manquait pas de l'attraper. Thérèse, un balai à la main, achève de nettoyer le cloître. Elle a oublié par mégarde une toile d'araignée dans un coin obscur. C'est naturellement la première chose que remarque la mère supérieure. Son verbe aigu alerte la communauté. On voit bien que nos cloîtres sont balayés par une enfant de 15 ans, c'est une pitié. La pauvre Thérèse Martin a envie de rentrer sous terre. Allez donc ôter cette toile d'araignée et devenez plus soigneuse à l'avenir. Pour compliquer la situation, il se trouve que la mère prieure ne tenait aucun compte des ordres qu'avait donné de son côté la mère maîtresse des novices, dont dépendait directement Thérèse. À qui fallait-il obéir? Par exemple, au temps de son postulat, 1 an plus tard, l'épreuve fut donc longue, la mère maîtresse avait pris l'habitude d'envoyer la novice cueillir de l'herbe au jardin. Celle-ci s'y rendait en tremblant, car elle ne manquait jamais en chemin de se heurter à la redoutable prieure. Mais enfin, clamait celle-ci, cet enfant ne fait absolument rien. Qu'est-ce qu'une novice? Qu'il faut envoyer tous les jours à la promenade? Et pour toute chose, ajoute sœur Thérèse, elle agissait de même avec moi. Dans les rares directions où je restais près d'elle pendant une heure, j'étais encore grondée presque tout le temps, et ce qui me faisait le plus de peine, c'était de ne pas comprendre la manière de me corriger de mes défauts. Ces défauts, à l'entendre, étaient la lenteur, le peu de dévouement dans les offices. Thérèse méditait sans doute, ou faisait oraison, ou simplement rêvait. Tandis que les autres jeunes sœurs étaient entièrement à leur ouvrage, son esprit voyageait ou se fixait ailleurs. Trop d'imagination, ou peut-être trop de prière. La mère prieure devait reconnaître plus tard que la peine profonde qu'elle ressentait de ses rigueurs ne l'avait jamais détournée d'une parfaite obéissance. À quel prix? On frémit de l'imaginer. De la maîtresse des novices, Mère Marie des Anges, ce fut une croix d'une autre espèce qu'elle reçut. Celle-ci la connaissait depuis son enfance, elle lui portait beaucoup d'affection. Appelée à la diriger, elle ne se démentit point. Elle reconnut aussitôt en Thérèse une correspondance très constante à la grâce. Ainsi lui donna-t-elle tous ses soins. Mais voilà, elle parlait trop, elle discourait trop. Et Thérèse aimait le silence, cultivait le silence en elle pour essayer de s'entretenir avec Dieu. La mère Marie des Anges, qui ne s'en doutait pas, la submergeait de prônes monotones, de mornes explications. Thérèse en venait presque à préférer les admonestations de la prieure. Pourtant, sans un mot de critique, elle confiait à sa maîtresse ses ennuis. Alors Mère Marie des Anges y compatissait de tout cœur, lui imposait par compensation certaines atténuations à la dureté de la règle dont la nouvelle postulante eût pu contester la propos, bien que souvent elle en éprouva le besoin. Il était bon que sa maîtresse lui permît de manquer l'oraison du matin ou les petites heures, car Thérèse souffrait d'insuffisance de sommeil. Mais sa bonté exagérait quand soudain, sans raison aucune, elle prolongeait toute une quinzaine ce traitement d'extrême faveur. « Mademoiselle se fait dorloter », pensait Mère Marie de Gonzague. Si encore elle se fût contentée de le penser. Tout se retournait donc contre la jeune fille, même les prévenances dont elle était l'objet. Les jeunes sœurs avaient l'occasion de visiter de temps en temps l'ancienne prieure du Carmel, Mère Geneviève de Sainte-Thérèse, que des infirmités très douloureuses retenaient à la chambre et souvent au lit. C'était une sainte religieuse, très avancée dans l'oraison. Le Seigneur lui parlait, lui révélait même ce qu'on rapporte, tels événements d'importance avant qu'ils se fussent produits. Qui donc pouvait, devait, si ce n'est elle, lire dans l'âme de Thérèse et entrevoir son miraculeux avenir? Elle ne devina pas la postulante. Elle ne sut que la consoler, non sans quelquefois prendre peur devant son audace spirituelle et mettre une sourdine à ses saintes explosions. Pour une fois que la jeune fille va se sentir en confiance en face d'une religieuse qui s'entend à la sainteté, celle-ci négligera, repoussera ou glacera ses plus précieuses confidences. Mais nous dira-t-on, ces deux sœurs, toutes deux l'aimaient tendrement, elles leur rendaient l'appareil. Mais elle ne s'était point séparée de ses proches pour retrouver de plus proches dans son couvent. Il lui semblait que toute affection naturelle, et en particulier toute affection de famille, devait le céder sous ce toit austère à l'amour réciproque et sans préférence de toutes les religieuses en Dieu. Thérèse ne résignait pas son penchant, elle le surmontait. Elle n'ignorait pas la joie de qualité vraiment spirituelle mais peut-être aussi trop mêlée d'humains, que lui eût procuré la fréquentation assidue, si la mère prieure la lui eût permise, de sœur Marie du Sacré-Cœur, sa grande aînée et sa marraine, et de sa petite mère, sœur Agnès de Jésus. Elle était assurée du secours vraiment efficace que leur expérience unie à leur tendresse ne manquerait pas de lui proposer. Quand elle avait été bien rabrouée, blessée dans son orgueil et surtout dans son bon vouloir, elle brûlait de se précipiter vers elle pour échapper à ce refoulement atroce d'une souffrance qu'il faut taire parce que personne n'en veut. Par un acte de volonté qui semble au-dessus des forces humaines, elle refusait à sa souffrance cette issue, la plus naturelle qui fût. Elle fermait son cœur, elle s'était fait une règle de ne rechercher sous aucun prétexte la compagnie de ses deux sœurs. En récréation, elle se plaçait indifféremment auprès de la première venue, ou mieux, elle s'assurait le voisinage d'une compagne qui lui paraissait délaissée. Si l'une de ses sœurs était souffrante, elle attendait d'être devancée par une autre pour se permettre de la visiter. On peut supposer que ses sœurs, qui n'étaient pas encore parvenues au même degré d'abnégation, en souffraient, s'en plaignaient entre elles, accusaient même leur petite Thérèse d'égoïsme et d'ingratitude. Elles finiront par comprendre, nous excusons leur premier mouvement. Cette réserve affectée et délibérée ne facilitait pas l'échange. Une certaine froideur involontaire s'ensuivit. Et Thérèse gardait son mal, sans conseil vraiment éclairé, sans direction compétente. Au fait, elle n'avait jamais eu de directeur, mais au moment d'en choisir un, tous ses confesseurs la déçurent, soit par leur insuffisance, soit par leur incompréhension. L'aumônier du couvent était au-dessous de sa tâche. Le père Blineau de la Compagnie de Jésus traita de très haut ses prétentions. « Mon père, je veux devenir une sainte, lui dit-elle, je veux aimer le bon Dieu autant que sainte Thérèse de Jésus. Bornez-vous à vous corriger de vos défauts et à ne plus l'offenser. » « Ce ne sont pas des désirs téméraires, répartit la têtue. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit « Soyez parfaits comme notre Père céleste est parfait ?» Elle prenait l'évangile à la lettre. C'était un scandale. Le père Blineau n'y crut pas. Un autre jésuite, le père Pichon, débarqua pour une retraite. Au cours d'une crise de doute au moment le plus dur de son postulat. Car Thérèse doutait. Nous n'avons pas dit le plus grave. De pauvres contradictions, de misérables déceptions humaines auraient-elles brisé, supplicié ainsi son cœur, si Dieu y eût versé quelque grâce sensible comme un baume, comme un cordial? À peine installée au couvent, Dieu s'était voilé à ses yeux. L'épreuve du délaissement de Dieu avait d'un coup fondu sur elle. Le premier jour, sans délai, sans raison, pour y demeurer des mois sans répit. Je n'avais pour mon âme, écrit plus tard la pauvre enfant, que le pain quotidien d'une sécheresse amère. Elle n'exagère pas. Dans une lettre du 8 mai, un mois après son entrée au Carmel, voici comment elle parle à sa sœur Céline. Il est pénible de commencer une journée de labeur quand Jésus se cache à notre amour. Que fait-il, ce doux ami? Il ne voit donc pas notre angoisse, le poids qui nous oppresse? Où est-il? Pourquoi ne vient-il pas nous consoler? Mais aussitôt Thérèse se reprend, il faut bien remonter sa pauvre sœur si privée d'elle. Céline ne craint rien, il est là tout près de nous, il nous regarde. C'est lui qui nous mendie cette peine, ses larmes. Il en a besoin pour les âmes, pour notre âme. Il veut nous préparer une si belle récompense. Ah, je t'assure qu'il en coûte pour nous abreuver d'amertume. Mais il sait que c'est l'unique moyen de nous préparer à le connaître comme il se connaît, à devenir des dieux nous-mêmes. Élevons-nous au-dessus de ce qui passe, tenons-nous à distance de la terre, plus haut l'air si pur. Jésus peut se cacher, mais on le devine. Et s'il s'obstine à se cacher? La courageuse enfant fait contre fortune bon cœur. Jamais sa sœur ne pourra souffrir autant qu'elle. Qu'importe l'injustice, les persécutions des créatures, c'est le Seigneur Jésus, son Dieu, qu'elle est venue chercher dans cette maison de piété. L'ayant déjà rencontré dans le monde, où on le prie si mal, où on l'aime si peu, nul doute qu'elle ne le trouve infiniment plus présent, plus familier, sous le toit privilégié de ses amoureuses colombes. Hélas, l'époux ne se présente pas au rendez-vous qu'il fixa à sa fiancée. Elle est entrée pour Jésus au Carmel, et Jésus n'y est point. Mais que faire pour qu'il se montre? Un cœur sec, des yeux secs, des prières vides de suc, vides même de sens, une aridité infernale. C'est peut-être l'enfer? Non, les prémices seulement. Elle n'a pas encore mérité l'enfer sur la terre, car il faudra le mériter. En attendant, Thérèse se demande si elle n'a pas encouru la haine de Dieu. Elle doute de la valeur de ses moindres actions. Elle sent monter, comme jadis, le flot souterrain des scrupules. C'est ici que le père Pichon lui apporta son bienfaisant secours. Thérèse l'avait vue l'année précédente au parloir en allant visiter ses sœurs. Elle lui avait parlé de sa décision et il l'avait encouragée. Il la reconnut bien, il la traita avec bonté. Il pensait trouver une petite sœur d'une ferveur tout enfantine qui suivait une voie bien douce. Quand il se pencha sur l'abîme qu'elle entrouvrit pour lui, car elle l'entrouvrit seulement, elle éprouvait, nous avoue-t-elle, une difficulté extrême à s'épancher. C'est un trait qu'il faut retenir, il éclaire son cas, son destin et son caractère. Le père mesura la profondeur cruelle des grâces de souffrance qu'elle avait déjà reçues de Dieu. Si elle ne s'était refermée, il l'eût peut-être entièrement comprise. Du moins, après une confession générale, dans laquelle Thérèse revécut tous ses manquements, toutes ses légèretés, toutes ses imperfections puériles, il crut devoir déclarer solennellement, en présence de Dieu, de la Sainte Vierge, des anges et des saints, qu'elle n'avait jamais commis un seul péché mortel, sans y avoir, ajoute-t-il, aucun mérite. Pour le reste, il se récusa. Le secret de cette âme exceptionnelle lui refusait par timidité, par pudeur, ou faute de moyens pour traduire, dépassait peut-être sa compétence ou celle que son humilité lui concédait. Il affirma que c'était une épreuve. Il devina en elle le travail de l'esprit. Il termina son instruction par ce vœu. « Mon enfant, que notre Seigneur soit toujours votre supérieur et votre maître des novices. » Thérèse se réjouit grandement d'apprendre qu'aucune faute n'avait terni sa robe blanche de baptême et sans mérite de sa part. Elle ne s'en attribua aucun. Elle crut recouvrer la paix. Elle pensa avoir trouvé un véritable père pour son âme, mais le père Pichon fut renvoyé au Canada. Et Thérèse se retrouva seule, seule avec Dieu qui ne se montrait point.